Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour cette actualité financière du mercredi 29 avril 2026. On clôture quasiment le mois et on part immédiatement avec le Money Stock Supply aux États-Unis, la réserve fédérale qui est en hausse légère, plus 1%, et on continue d'avoir malgré tout une belle dynamique autour du secteur de l'IA avec Nvidia qui a fait un nouveau point haut, mais pas que, puisque bon nombre de super sociétés l'ont accompagné dans ce move. Et à court terme, toujours pour aujourd'hui et ce soir, on aura des résultats, notamment du côté de Amazon, Microsoft, Google, et il doit y en avoir un petit quatrième pour aujourd'hui que j'ai déjà oublié, c'est ma mémoire de poisson rouge. Donc toujours est-il, on est sur une dynamique en effet où pour le court terme, malgré tout, on a toujours cette problématique autour du pétrole pour l'UK Oil, l'US Oil, qui sont tous deux au-dessus des $100, et on va avoir donc ce trou noir béant qui continue d'absorber toute la liquidité côté IA, côté investissement, les capex plus hauts que jamais. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un capex, c'est bien tout simplement, c'est l'argent qu'investissent les entreprises dans leur propre activité. Et à ce jeu-là, on a des Google et des Apple qui sont très très forts en général. Je voulais également, en guise d'introduction de cette émission, alors ça ne va pas plaire à tout le monde, mais comme d'habitude, c'est un exercice de pensée. J'étais en train de regarder le chart du Nasdaq depuis les années 2000. On est ici sur le futur. On est en échelle de temps un mois. Et je regardais un petit peu ce qui s'était passé lors de la déroute des années 2000 post-bulle Internet, puisque aujourd'hui on peut considérer, alors est-ce que nous sommes au début, au milieu ou à la fin de la bulle de l'intelligence artificielle, on ne le saura que bien plus tard. Mais donc j'ai regardé ce qui s'était déroulé autour des années 2000 et on avait perdu donc par rapport à cette zone des quasi 5000 points qu'on avait touché en mars 2000 jusqu'au point bas qui avait été trouvé en septembre 2002. Moins 83,48%. Et donc, je me suis amusé à reporter ça à aujourd'hui avec un Nasdaq qui est autour de 27 300 points. Et donc, pile poil, les moins 83,5, ça nous ramènerait autour de 4 500, 4 600 points, qui est l'ancien record des années 2000. Et oui, c'est ça qui est assez extraordinaire pour le coup. Et qui est surtout une zone qu'on a travaillé longuement autour de décembre 2015, début 2016, et qu'on a franchi par la suite sur cette fin d'année 2016 pour reconnaître quasi qu'une pente donc continue. Ceci étant dit, pareil, on peut remonter à 2008-2009 après les subprimes et on a eu de cesse de progresser positivement sur l'indice de la tech américaine. Donc j'aime bien de temps en temps me triturer l'esprit et me dire, et si ça se repassait une fois qu'on ait la super bulle IA et qu'on ne voit pas finalement l'iceberg arriver droit devant le Titanic, comment ça se déroulerait? Admettons que voilà, pour X ou Y raison, ça se passe pas bien, que tous ces investissements, toutes ces expectatives de haut niveau de ce que ça pourrait fournir demain, ne soient pas à la hauteur de la réalité. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que, on reviendrait, en tout cas si on faisait la même contre-performance qu'on a faite à l'époque dans les années 2000, à peine 10 ans en arrière, puisqu'on a franchi cette zone effective des 4600-4800 points pour le Nasdaq à peine en fin 2016, début 2017. Donc on reviendrait à peine d'un point de vue boursier et spéculatif 10 ans en arrière, ce qui peut paraître beaucoup en bourse, mais d'un point de vue comme ça, quand on regarde les charts long terme, c'est pas si loin finalement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, vous aussi de temps en temps vous réfléchissez comme ça un petit peu à ce qui pourrait être le pire scénario, le némésis boursier. Et je trouve quand même que pour l'exercice de pensée, de temps en temps ça permet de remettre les choses en place dans leur contexte. Et quand on voit des oscillateurs qui sont aussi hauts comme ça, comme le MACD, le RSI, etc., qui en mensuel, en trimestriel, restent complètement perchés pendant des lustres et des lustres. Certes, on peut se dire que très positivement, et j'espère comme tout le monde que ça sera ce qui en ressortira, l'IA va nous tirer vers le haut, et en espérant que au niveau de tous les emplois que ça va supplanter, qu'il n'y ait pas de problématiques humaines derrière, je pense que ça se fera pas sans mal. Et d'un autre côté, il y a l'aspect boursier où plus que jamais, la bourse est euphorique, on fait des nouveaux points hauts, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais d'un point de vue macro et géopolitique, jamais le monde n'a été aussi instable. Donc on a un peu deux mondes qui viennent s'entrechoquer entre les espoirs du futur et la réalité d'aujourd'hui. On poursuit avec l'Eurostox qui, pareil, fait un petit peu le yo-yo pour l'Europe à court terme. C'est un jour oui, un jour non, donc pas de surperformance côté Europe, en tout cas pour l'instant. Le DXY, dollar américain, 98,7. Les taux longs sont plutôt stabilisés. À noter que on a de légères contre-perf 0,32 hier pour le CW8, donc le World côté en euros, et du côté des small cap américaines, le Russell reculé de moins 1,15 points. Les métaux précieux nous annoncent pour l'instant une stabilité, en tout cas le gold sous les 4600. Il a quand même lâché depuis deux semaines, on va mesurer ça environ 16%, 15%, ça n'est pas rien. Donc un gold en correction, mais toujours voilà, au prorata de ce qui s'est déroulé, on voit que les volumes sont complètement fous. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu un textbook de ce qu'on voit en analyse technique. La trend est sortie d'une très longue contraction à plat et on a une rampe de lancement qui fait vraiment penser à une fusée, pour le coup, au niveau des volumes en bas, avec des banques centrales, etc., qui ont eu un appétit complètement fou au niveau des métaux, mais surtout de l'or. Quand on regarde le petit frère, la petite sœur, comme vous voulez, du côté du silver, pareil, on a quand même eu, il y a trois mois de ça, un beau signal de top ici, autour de 120-122 $, et en recul de moins 40%. Donc j'espère que vous n'avez pas été de ceux qui ont acheté le top sur le silver, mais il y a quand même, d'un point de vue institutionnel de la force, des objectifs qui restent autour de 90 $ et 5500 $ l'once à 12 mois pour l'or et l'argent. Donc on verra là aussi si les banques institutionnelles ne se sont pas trompées sur leur forecast. Côté crypto total pour la crypto, donc 2550 milliards, bloqué autour de cette zone des 2005-2006, qui correspond finalement du côté de Bitcoin à 75-80. C'est pas très difficile, on fait des comptes ronds. Le RSI mensuel a été défendu autour de la zone clé des 42-43. Le MACD, petit à petit, est en train de perdre de la force vendeuse. Ça a été déjà le cas en hebdomadaire, mais c'est en train de remonter jusqu'au time frame supérieur en mensuel. Il est à noter que le crypto total 2 des altcoins, qui exclut donc BTC, travaille autour de la moyenne mobile 50 mois, et il faudra donc faire péter le bouchon de champagne plus tard. On est aujourd'hui à 1000 milliards tout rond, à 1100-1200 autour de la moyenne mobile 20 mois qui nous attend ici, et la zone relativement de polarité juste au-dessus à 1260 milliards. Côté BTC, en marge d'une Bitcoin dominance donc qui continue de progresser 60.5, on a peut-être un début de retournement ici quand on regarde sur un trimestre depuis février 2026. On se pose, on tente la percée, ça ne passe pas immédiatement en avril. Alors est-ce que ça va être sell in May and go away cette année, ou est-ce que ça va être rester bien accroché à vos écrans cet été et on part direction les 85, 90, peut-être 100 000 $ du côté de Bitcoin. Aujourd'hui, on a une moyenne mobile 20 mois qui est autour de 90 750 $. Et là, pareil, on a pas mal défendu au niveau des oscillateurs les zones clés. La seconde crypto-monnaie du marché suit finalement BTC dans ses pas. Depuis il y a 3 mois, la touchette à 1 750 $, on est de retour au contact par dessous. On la reteste, et c'est pour ça que ça prend du temps, de la moyenne mobile 50 mois, 2 442. La moyenne mobile à 20 mois est pile poil alignée avec la médiane de range à 2800-2850, et par la suite on pourra parler de retournement haussier lorsqu'on travaillera durablement au-dessus de 3400, et plus tard bien entendu, en espérant que ça soit un triangle rectangle ascendant, quand on sortira de cette ornière en pulvérisant, on l'espère tous, les fameux 5000 $ du côté de Ethereum, ce qui nous permettrait là pour le coup de enfin lâcher les chiens. Côté Treasury Company, toujours voilà, un peu dans ce marasme, pas plus, pas moins, peu importe où l'on regarde, que ça soit Circle, Coinbase, SBET, les Riot, il y en a de temps en temps qui sont un petit peu plus partants peut-être que d'autres, et Riot, ça fait longtemps, il est vrai, quand on regarde comme ça, qui est à plat, et on a quand même pas mal de volumes qui sont exécutés. Ceci étant dit, sur le cycle précédent, les minières se sont démontrées relativement peu voilà, engagées et engageantes, donc à prendre avec modération, et surtout c'est un domaine qui est assez complexe à naviguer. On a Netflix en mensuel qui se fait repousser depuis les 109, on repasse sous la moyenne mobile à 20 mois et on est de retour à 92-93 $, donc toujours dans cette tentative de marquer ici un futur bottom, mais pour l'instant ça reste pas la relance tant attendue. En tout cas, en 3 mois de temps, on avait quand même imprimé 45% de mèche à mèche, donc ça n'est pas rien. Nvidia moins 1,59 hier, mais pareil, qui essaie de s'extraire vers un nouvel ATH. Ceci étant dit, quand on regarde ici, on a de moins en moins de volume, les oscillateurs sont très hauts, même en mensuel. Donc est-ce que cet état de fait pourra perdurer et continuer d'alimenter finalement un futur toujours plus haut, toujours plus fort, alors même que toutes ces super sociétés sont déjà gonflées à bloc et à balle. Voilà, c'est de ça dont il faut préjuger pour la suite. Côté action française, Total Energy qui continue de faire le yo-yo, mais pareil, très certainement les premiers signaux de top au vu de la volatilité sur ces deux dernières bougies mensuelles. Depuis les 81 euros, on a balayé jusqu'à 72, voire 66 sur le mois précédent, donc ça fait des amplitudes qui sont assez énervées. On a FDJ qui a reculé de moins 8%, c'est énorme, la bougie est bien dégueulasse. Ceci étant dit, c'est sur détachement de dividendes, donc on va voir s'il y a de la réaction derrière, mais pour l'instant, voilà, la configuration ici, elle n'est pas top top. On a beaucoup, beaucoup de volumes qui sont exécutés depuis 6 mois, donc on a peut-être un climax un peu vendeur ici, avec un prix qui tente de se stabiliser. C'est à surveiller, on va voir comment ça va évoluer dans le second semestre 2026. C'est un petit peu pareil pour Air Liquide, à ceci près que Air Liquide est fondamentalement et résolument haussière, bien entendu, mais on clôture le mois donc en se faisant repousser depuis le nouvel ATH qu'elle avait fait autour de 190 euros. On est à 181 euros aujourd'hui, moins 3,20% journalier. Côté Alcoin, donc c'est un sujet que je traite en même temps que je vous en parle avec AAV qui a bel et bien réussi le tour de force de fédérer autour de la finance décentralisée avec un grand DeFi majuscule la possibilité donc de rembourser l'intégralité de tout ce qui avait été détourné sur le hack finalement de Kelp DAO. Donc on va avoir des utilisateurs qui vont très certainement être remboursés dans la totalité, voire même peut-être il y aura des incentives derrière pour relancer un petit peu la machina autour de la DeFi. Donc on est quand même, quand on regarde comme ça le chart de AAV sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois de baisse consécutive, c'est assez catastrophique quand on le regarde ainsi. Et peut-être que aussi ben, la spéculation nous annonce une musique qui n'est pas très glorieuse, en tout cas pour l'instant. Et d'un autre côté, ils ont réussi ce tour de force de fédérer en plein bear market, et ce que très certainement quasi aucun protocole n'aurait réussi. Ça pose aussi la question de la fragilité systémique peut-être de la finance décentralisée, de si le plus gros domino tombe, derrière ils ont peur de tous tomber avec ce dernier. Donc voilà, on verra un petit peu les tenants et les aboutissants dans les prochains mois, mais pour l'instant, le grand ouf de soulagement pour les utilisateurs de KelpDAO et de AAV, le remboursement va finir par arriver. Et on clôturera avec l'Asie, mais ça sera pas la clôture finale, donc restez bien jusqu'à la fin. J'aime pas dire ce genre de phrase, mais là pour le coup aujourd'hui c'est vrai, puisque j'ai une ou deux petites informations à vous faire parvenir en supplément. Je commence à surveiller, même si c'est un petit peu trop tard, de la même façon qu'on est rentré tous les Européens un petit peu tard sur des Tesla et consorts, parfois même des Nvidia. Aujourd'hui je vois beaucoup de gens acheter Nvidia alors que bon, c'est une société valorisée à 5 200 milliards. Ceci étant dit, ça va être la course dans les prochaines années, voire décennies, de la première société américaine qui viendra coter 10 000 milliards. Et peut-être que ça sera des SpaceX et compagnie qui vont pas tarder à être introduites en bourse. Toujours est-il, on finit aujourd'hui pour les actions avec BYD. Le ticker, c'est 1211 sur le Hong Kong Exchange. Et donc, on est là aussi sur une périodicité d'aplat après une très, très belle poussée qui s'est déroulée à compter de 2020 jusqu'à assez récemment, mai 2025. Donc il y a à peu près un an, on consolide ici. Est-ce que BYD est en train de devenir énorme au point de supplanter justement les Tesla et toutes les autres grosses marques? Mais surtout, le sujet sous-jacent, c'est est-ce que les Chinois sont en train de supplanter l'Occident au niveau des voitures électriques et des batteries? La réponse est très certainement oui. Donc c'est quelque chose de très intéressant à surveiller, puisque on est dans ces grands rectangles d'un point de vue technique qui durent très longtemps, exactement ce qu'on peut observer du côté de Tesla. Et est-ce qu'on va avoir donc un challenger qui par le passé était l'outsider et peut-être deviendra le grand gagnant demain? En tout cas, c'est vachement intéressant. Et donc je voulais clôturer l'émission du jour avec un ETF qui a été créé donc le 11 décembre 2025, ça remonte à peine à un gros trimestre, et surtout il réplique le fonds de William Higgins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur Finari sur la chaîne YouTube William Higgins, il va vous parler de son fonds, de sa vision, des dizaines de pourcents par an qu'il a réalisé tout au cours de sa carrière et notamment sur son fonds. Et c'est ce qui intéresse aujourd'hui donc les gens sur ce Independence AM Europe Mid UCITS ETF E Capitalisant. ans. Avec un ticker, c'est LU 319-59-85-372. Et un ticker réduit, c'est IEMID. Et donc, il y a pas mal de gens qui en ont discuté sur les réseaux sociaux, et notamment le fait qu'il y avait 1,56% de frais par an, ce qui est vrai, qui est énorme, mais le tout en ayant un fonds qui, historiquement, a affiché des performances de 12, 15, voire 20% par an. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en tout cas d'un point de vue purement curiosité, eh bien, je vais très certainement en mettre quelque part dans un petit compte-titre ou quelque chose dans ce style, et essayer de voir justement sur à peu près, on va dire, 3, 4, 5 ans, est-ce que ce fonds aura réalisé la performance escomptée, et quel impact aura pu avoir ce FISE qui paraît déraisonnable au vu d'un ETF, puisqu'aujourd'hui, quand on achète du S&P ou du Monde, on est à 0,15, 0,20, 0,25. Donc là, tout le monde crie au loup pour 1,56. Mais effectivement, si on se prend du 15 à 20% par an, je rappelle, eh bien, ça va contrebalancer tout ça. Également, je vous avertis, quand on parle de ça, c'est ni un conseil, ni sponsorisé, ni rien du tout. C'est un particulier qui parle au particulier. Vous allez avoir la volatilité qui vient avec. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui acheter une part autour de 110 euros, ce qui permet là aussi aux primo-investisseurs de venir chercher peut-être un peu plus de volatilité dans un petit pourcentage du portefeuille, mais à la hauteur de ce que ça va varier. Autant ils vont avoir des années où ils vont aller chercher l'objectif de plus 15, plus 20, mais au cours de l'année, ça peut aussi varier en négatif de moins 15, moins 20 et très certainement au-delà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de fonds peuvent vous intéresser au travers d'un ETF. Il s'agit de quelqu'un qui a un track record mirobolant et qui, quand il parle, notamment chez Finari, est très intéressant à écouter. Est-ce qu'il va pouvoir répliquer cette performance dans les 5 à 10 prochaines années, rien n'est moins sûr. Comme on dit souvent en bourse, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et également, il y avait le lancement, mais je n'ai pas retrouvé la publication, on en parlera ce week-end si vous le souhaitez, pour placer, et notamment pour nos franchis, la possibilité de mettre vos liquidités dormantes, pareil sur un PEA, à hauteur de 2%. Ça vient chercher l'ESTER finalement, qui est le taux de la banque centrale. Il y en a beaucoup là aussi qui ont dit oui, mais les nouveaux brokers propose directement 2% sur le compte. Donc je vous fais juste passer l'information. Le mieux, bien entendu, la plupart du temps, ça, c'est d'avoir des banques qui vous le rémunèrent nativement, mais quand vous avez donc une diversification, y compris géographique ou au niveau des banques, vous devez aussi pouvoir avoir un bon nombre d'autres choix possibles que de juste toujours attendre finalement que quelqu'un vous propose quelque chose. Donc voilà, j'espère que ces informations vous auront servi à quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouvera donc d'ici samedi pour le débrief de cette semaine. Et attention à la volatilité avec les résultats des Super 7 aux États-Unis. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.